Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
C'est une émission qui devrait nous secouer au lieu de nous déprimer, nous encourager à repenser nos priorités, à ce que nous attendons de l'État et de l'hôpital dans un paysage unique au monde qui est le système de santé français. Ces hôpitaux parfois ultra performants et gratuits pour tous, enfin jusque-là, et sa célèbre sécurité sociale que le monde entier nous envie. C'est un constat assez terrifiant, mais comme une sonnette d'alarme que de nombreux médecins et soignants tirent depuis longtemps, précisément parce qu'ils y croient ou y croyaient à cette exception française. Mais c'est l'histoire de ces deux médecins qui arrivent aujourd'hui à la limite de ce qu'ils peuvent faire, au-delà de laquelle les soins qu'ils prodiguent peuvent s'avérer plus dangereux que bénéfiques. En novembre 2024, dans une étude portant sur la santé mentale des médecins, 6 médecins sur 10 déclaraient avoir été touchés par un problème de santé mentale, comme la dépression, un burn-out ou des pensées suicidaires. On essaie donc de voir aujourd'hui d'où viennent ces idées noires et en quoi les conditions de travail des internes et des médecins les favorisent en grande partie. Et surtout, ce qu'on pourrait faire pour y remédier, comme par exemple compter leurs heures de travail. Voici donc deux récits recueillis par Rémi Dibowski-Douat.
Je m'appelle Elena Fournier, j'ai 26 ans et il y a 7 ans, j'ai décidé de démarrer une première année de médecine. Je souhaitais devenir médecin pour aider des gens à mieux vivre dans la maladie et la souffrance, d'accompagner des personnes dans ces contextes-là pour leur permettre de se sentir mieux. Mon père est anesthésiste réanimateur et ma mère est avocate, elle fait du droit de la famille. J'ai un grand frère qui a 2 ans de plus que moi, qui vient de terminer ses études pour devenir cardiologue. Et j'ai une petite sœur qui est en 3e année de médecine. Et je pense que le fait d'être médecin, c'est une manière aussi de rentrer dans le clan familial en faisant un métier qui était le bon. Et donc, pour moi, c'était une façon d'être aimée et validée par ma famille que de poursuivre ses études de médecine. Et je pense que ça m'a mis une certaine forme de pression pendant les études, quoi. Je démarre ma première année en 2016, juste après avoir passé le bac, et je commence à travailler à un rythme très soutenu, entre 10 et 12 heures par jour en moyenne. Je sors pas, je vois pas mes amis, je vais pas au restaurant, je vais pas au cinéma, j'ai pas le temps d'aller aux fêtes de famille, je fais pas de sport. En fait, je fais que travailler, quoi, en permanence. Ça me plaît pas forcément, etc., mais je me dis que ce sera mieux après et qu'une fois que je serai médecin, une fois que je serai interne, je trouverai vraiment de l'épanouissement dans ce que je fais et que je me sentirai à ma place. Et donc, je réussis ma 2e année sans trop de difficultés. Et ensuite, je démarre la 3e année, lors de laquelle on démarre les stages d'externat. Donc, on commence à être externe à l'hôpital. C'est un statut un peu particulier parce qu'on est externe non rémunéré au CHU. Et je constate globalement qu'en fonction des services, on n'est pas forcément accueillis. Ils ne savent pas trop quoi faire de nous. On nous fout un peu dans un coin là où on peut. Et globalement, on essaye de nous montrer quelques trucs, mais il y a vraiment certains services où ça gêne plus qu'autre chose et on ne sait pas trop comment nous utiliser notre temps. Et en fait, c'est une grosse perte de temps parce que je n'ai pas l'impression d'apprendre des choses concrètement. Et pour autant, je perds du temps sur mes révisions et sur le temps de travail que j'ai. Donc pour moi, c'est à partir de cette 3e année qu'il commence à y avoir énormément de stress parce que justement, jongler entre être en stage, se comporter de la bonne façon pour être bien vu par les chefs et travailler correctement pour réussir nos partiels, ça crée une forme de pression qui est vraiment assez intense pour moi. Et je pense qu'au-delà de ça, on n'est pas très considéré et pas très utile au sein de nos stages à l'hôpital. C'est à partir de la 5e année que ça a commencé à devenir vraiment compliqué pour moi. La cinquième année, c'est l'année pendant laquelle on commence à réviser et préparer le concours. Donc le rythme est assez soutenu. En plus de nos partiels de cinquième année, on a des conférences le soir. C'est de 20h à 22h. Une ou deux fois par semaine, on a des conférences pour réviser les matières du concours. Et à cela s'ajoutent des gardes aux urgences et les gardes en gynéco. Donc c'est la première fois qu'on fait des gardes à l'hôpital de nuit. Peut-être 25 gardes au total sur notre 5e et 6e année. Quasi une fois par semaine de 24 heures aux urgences, que je supporte vraiment pas très bien. Je me retrouve donc au début de la nuit de garde, quand on vient de faire déjà de 8 heures jusqu'à 22 heures, et qui reste encore toute la nuit jusqu'à 8 heures du matin, que je sais pas si je vais pouvoir dormir un petit peu ou pas du tout, et que je me sens complètement incapable de prendre en charge un patient. Enfin, je vois vraiment que ma capacité en fait à traiter correctement un patient est pas du tout au niveau d'exigence pour pouvoir correctement prendre en charge les gens. Et puis j'observe chez mes chefs et mes internes le même état de fatigue physique et mentale, et quand moi je verbalise comment je me sens, on me dit que c'est normal et que ça va passer, quoi. C'est la normalité. Et c'est pas du tout un problème pour eux. Enfin, en tout cas, je vois que c'est pas une raison pour faire les choses différemment. Et donc, j'ai beaucoup de frustration. À cette période-là, je pense que c'est moi le problème. Que je suis pas assez forte, que je travaille pas assez, que je fais pas assez d'efforts. J'essaye de lutter autant que je peux pour être le plus focus possible, le plus concentré possible, pour pas faire d'erreurs médicales et mettre en danger la vie de patients. Et il y a aussi une part de moi qui comprend pas qu'on nous impose autant de gardes pendant nos révisions, alors qu'on prépare le concours, et qui comprend pas que ce soit obligatoire, en fait, de faire des gardes de 24 heures, alors que c'est illégal, en fait. Enfin, on n'a pas le droit de travailler 24 heures d'affilée. Je pense que c'est une des premières fois où je me pose la question sur est-ce que j'ai vraiment envie d'être médecin. Il y a une des gardes qui a été, je pense, vraiment une prise de conscience pour moi, où j'allais dans les toilettes pour pleurer, pour évacuer en fait la pression et le stress. Et il y a une garde où j'ai demandé à mon copain de venir me chercher parce que j'en pouvais plus et que j'avais besoin de faire une pause et de rentrer chez moi, enfin juste pour souffler un peu et respirer, parce que je me sentais vraiment étouffée, quoi, et épuisée dans l'hôpital. Enfin, j'ai dit à ma co-externe que j'avais un médicament à prendre chez moi et qu'il fallait que je rentre chez moi pour aller le chercher, alors que c'était pas vrai. J'avais juste envie de pleurer sans avoir peur que quelqu'un m'entende si je pleure dans les toilettes de l'hôpital. Et donc je suis rentrée chez moi, et en fait j'arrivais même pas à parler, en fait, tellement j'avais des sanglots et je pleurais de juste évacuer la pression et le stress et le fait de me forcer à continuer à faire quelque chose qui était vraiment épuisant pour moi. À ce moment-là, j'ai beaucoup de symptômes physiques, donc c'est des palpitations, l'impression de manquer d'air, d'avoir du mal à respirer. Parfois, le matin en me réveillant, je pleurais parce que j'avais pas envie d'aller en stage ou pas envie de réviser. En général, ce qui me mettait dans cet état-là, c'était l'anxiété, donc vraiment des symptômes d'angoisse physique, et qui faisait qu'en fait, j'arrivais pas à dormir. Je crois que je prenais des somnifères ou quelque chose comme ça pour dormir, et je me disais, en fait, ce serait plus simple de juste prendre la plaquette de somnifères entier et peut-être de pas me réveiller. Je ne peux pas arrêter parce que si j'arrête mes études, j'ai plus de raison de vivre. Et en même temps, je supporte plus ce que je vis. Donc la conclusion pour moi, c'était mettre fin à mes jours. C'est la seule solution pour pas décevoir mes parents et rien faire de ma vie, en fait. J'avais l'impression que si j'arrêtais, je ferais rien d'autre de ma vie et que c'était impossible, quoi. Je démarre ma sixième année. Je suis satisfaite de ça parce que je me dis c'est bientôt fini. Les souffrances sont bientôt terminées. Et donc, je suis assurée à l'issue de cette sixième année que, quoi qu'il arrive, je serai médecin. Et c'est sur la fin de la sixième année où je me rends compte qu'en fait, ça me rend pas heureuse d'envisager que dans quelques mois, je serai médecin. Je vois mes amis, en fait, qui sont enthousiastes à l'idée de démarrer leur internat. Et moi, au moment où on passe le concours et où on a les résultats, je suis contente parce que j'ai eu un bon résultat. Mais en fait, je me rends compte que j'ai pas envie de l'internat qui démarre dans 4 mois. Mais j'ai eu un bon classement et donc je me dis, maintenant que j'ai fait ces 6 années d'études, comme on m'a promis qu'après ce serait mieux, en fait, je vais quand même essayer l'internat. Et je démarre mon internat en Martinique. Et en fait, c'est au bout de 2 mois que je me sens vraiment de moins en moins bien en allant en stage. Une impression d'avoir physiquement une boule dans la gorge qui part jamais. Et quand je rentre le soir, ça m'arrive de pleurer sur le trajet du retour. Et puis, à cette période-là, j'observe vraiment que, globalement, autour de moi, le personnel soignant est en mauvaise santé physique et mentale. Et je l'observe par le comportement des personnes, la capacité à rester calme dans une situation, ou même les comportements addictifs, hein, le fait de fumer, le fait de pas manger correctement, de pas faire de sport. J'observe vraiment un état de santé qui est vraiment pas bon. Je vois que je vais mal et que tout le monde va mal aussi. Et donc, je me dis, finalement, sortir de ce système, c'est le meilleur moyen, en fait, d'aller mieux. Et donc, c'est à ce moment-là que je vais voir une de mes chefs, la chef de service des urgences où je suis, et que je lui dis que je n'ai pas envie d'être médecin et que je n'ai pas envie de poursuivre mon internat. Et c'est à ce moment-là que je décide d'arrêter. Au moment où j'en parle à ma chef de service, je ressens vraiment un soulagement. Mais je pense que c'est aussi compliqué pour moi parce que j'envisage à ce moment-là justement toutes les conséquences sur mon entourage. Je me demande ce que vont en penser mes parents. Parce que j'avais l'impression de trahir la famille en ne voulant plus être médecin. Quand je le dis à mes parents, ma mère... Elle s'inquiète surtout de ma santé et de moi, donc en fait, ça l'inquiète peut-être moins que mon père. Et je pense que ce qui a été le plus dur, c'est la période de transition, en fait. Bah, ok, je sais que je veux pas être médecin, mais je sais pas ce que je vais faire de ma vie. Donc cette période-là, c'était il y a 2 ans. Et aujourd'hui, ça fait 1 an et demi que j'ai créé un accompagnement pour les étudiants en médecine et les internes qui sont pas épanouis dans leurs études. La mission que je me suis donnée, c'est de leur apporter tout ce dont ils ont besoin pour mieux vivre ces études ou, si c'est le cas, prendre conscience qu'ils ne sont pas à leur place dans leurs études et avoir la possibilité de se questionner pour trouver une voie professionnelle dans laquelle ils seront vraiment épanouis. On a accompagné 30 personnes en 1 an et demi et on est contacté sur les réseaux sociaux par... au minimum 1 ou 2 étudiants par jour, donc une trentaine d'étudiants par mois. Le projet que j'ai sur 2025, c'est essayer de m'adresser aux facultés pour pouvoir proposer une solution peut-être plus rapide et plus facile à mettre en place auprès de tous les étudiants.
Alors, je m'appelle Iba Traf, j'ai 34 ans aujourd'hui, je suis médecin pédiatre et j'ai toujours voulu être médecin rapidement dans mes études. J'ai voulu m'orienter dans la spécialité pédiatrique et je n'ai jamais regretté. J'avais fait un stage au CH de Montluçon et ce stage m'avait énormément plu. Je m'étais très bien entendue avec les chefs à l'époque qui étaient là-bas et déjà ils m'avaient proposé de venir travailler en tant que pédiatre après mes études. Alors moi je me projetais très bien là-bas. Donc, je passe ma thèse en octobre 2017. Et ensuite, en 2018, il était question que j'aille à Montluçon. Si ce n'est que, entre-temps, les chefs avec qui je m'étais très bien entendue et qui m'avaient proposé le poste quand j'étais interne, étaient partis, m'avaient appelé quelques mois avant en me disant qu'elles étaient épuisées et qu'elles quittaient le service. Que pour elles, c'était la désillusion. Et qu'elles ne se voyaient absolument pas continuer dans ce service-là, qu'elles étaient désolées puisque j'allais peut-être arriver dans des conditions qui ne seraient pas optimales. Donc je me suis dit, bon, ok, ça va peut-être être un petit peu plus difficile quand moi je vais arriver, mais après tout, je vais le faire, je me suis formée comme il faut, et puis ça va peut-être me permettre justement d'avoir encore plus d'expérience puisque j'aurai plus de travail. C'est plutôt comme ça que je l'ai pris en fait. Là, quand j'arrive à Montluçon, donc là on est en 2019, il y a eu deux recrutements de pédiatres étrangères, alors qu'ils n'étaient pas proprement parlé des pédiatres dans le sens où elles étaient encore en formation, donc elles n'avaient pas tous les droits entre guillemets de prescription qu'un médecin standard. Elles devaient être secondées, notamment quand elles étaient en garde. Nous, on devait être là en astreinte en fait au cas où, mais bon, très gentil. Donc je me dis que tout va bien se passer. Donc effectivement, au départ, j'arrive, tout va très bien. Le chef de service de l'époque, avec qui m'était très bien entendu, est toujours là et gère d'une main de maître le service. Et puis en tout, en fait, avec ces deux pédiatres étrangères, du coup, on est 7 pédiatres. On arrive à bien gérer, on est même des fois 2 les samedis. Tout se passe très bien, si ce n'est que la collègue déménage, l'autre collègue s'en va en libéral. Puis le chef de service part à la retraite et il n'y a toujours personne qui vient nous aider. Et là, franchement, on commence à se poser de vraies questions parce qu'on voit bien qu'en plus, on n'est pas attractif. On a un service qui marche très bien, mais du coup, on n'est pas assez nombreux pour pouvoir être attractif. C'est-à-dire qu'on rentre dans un cercle vicieux où les pédiatres n'ont pas envie de venir nous aider parce qu'il y a trop de travail et qu'on n'est pas assez. Donc les journées commencent à 8h30, donc avec des visites le matin en service de néonatologie, de pédiatrie, gérer les urgences en parallèle, les appels des parents, des médecins généralistes pour des avis, etc. Des fois on a le temps de manger, des fois on n'a pas le temps de manger. Les après-midi, donc il faut voir les consultations, il faut faire les contre-visites, il faut répondre aux urgences quand il y en a, en salle de naissance ou aux urgences. Et puis le soir vient l'astreinte, on reste tard le soir pour gérer les urgences avec les internes. On rentre chez nous quand on peut, donc là c'est très variable, mais ça va de 20h à 23h30. Et après la nuit, quand on est d'astreinte, on est rappelé en fait, en fonction des urgences qu'il y a. Donc quand l'interne a besoin, ou quand l'infirmière de néonat, ou quand la sage-femme en maternité a besoin de nous. Et donc la nuit, ça s'arrête pas forcément. Il y a des nuits où effectivement j'ai pu dormir, mais on dort jamais bien quand on sait que on peut nous appeler à n'importe quel moment, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes à un niveau où on vous appelle tellement que même quand on vous appelle pas, vous vous réveillez pour vérifier que votre téléphone est bien allumé et que vous n'avez pas loupé un appel. Et ça, en fait, ça s'installe de façon vicieuse et ça vous bouffe, en fait, à force. Grosso modo, l'année 2022, j'avais à peu près 15 astreintes par mois, ce qui me faisait, par semaine, 80 heures. À la longue, quand vous êtes réveillé 2-3 fois toutes les nuits pendant des mois et des mois, vous n'êtes pas opérationnel en journée, surtout quand il s'agit de traiter des urgences en fait, et des urgences des fois qui arrivent deux en même temps, c'est très compliqué. J'étais fatiguée physiquement. Je crois que j'ai perdu pas mal de poids à cette époque d'ailleurs. Je me rappelle notamment être tombée malade à un moment. Très honnêtement, j'aurais dû m'arrêter. Mes bilans n'étaient pas bons, etc. Et je ne l'ai pas fait jusqu'à ce que je tombe dans les pommes et qu'il faille m'arrêter, quoi. Et là, déjà, à cette époque-là, j'ai même pas pris ça, si vous voulez, comme un signe que mon corps commençait à me lâcher. Le jour où le médecin est venu à la maison suite à mon malaise pour m'arrêter, j'ai pleuré, je la connaissais, je lui ai dit « s'il te plaît, ne m'arrête pas, je ne peux pas laisser le service comme ça, ce n'est pas possible ». Parce qu'il fallait que j'annule toutes mes consultations, que ça allait être du coup des familles que j'allais décevoir, qu'il fallait ensuite après que je trouve le temps de revoir ces consultations, que je les rajoute à des heures pas possibles, et surtout que j'allais laisser mes collègues dans l'embarras à faire mon travail, alors qu'elles étaient déjà sous l'eau. Après voilà, je me suis remise finalement assez vite, hein, c'était pas quelque chose de très grave non plus, mais la troisième collègue donc commençait elle aussi à montrer des signes de fatigue physique, à s'arrêter, et ça à la longue c'est compliqué de sentir que je n'avais pas d'aide de ceux qui étaient censés m'aider. Enfin, moi, j'étais persuadée que il y avait une veille sanitaire qui s'effectuait par l'Agence régionale de santé, l'ARS, qu'il y avait des gens qui nous surveillaient, qui étaient là pour notre bien-être au travail et qui ne nous laisseraient pas tomber, en fait. À partir de 2020-2021, la situation se dégrade vraiment. Je vois vraiment que personne décide de se bouger au niveau administratif. On essaie d'appeler à l'aide l'ARS, on essaie d'appeler à l'aide notre président du conseil de surveillance, mais il n'y a pas vraiment de réponse. Et derrière, ma collègue, donc praticien hospitalier, décide de partir. Je voyais très bien que ça n'allait pas. Donc quand elle part, je me retrouve seule praticien hospitalier, donc médecin inscrite à l'ordre officiellement dans le service. Alors, c'est vrai que à ce moment-là, quand ma collègue est partie, il y a quand même eu une prise de conscience du CHU qui s'est dit « bon, là, va vraiment falloir faire quelque chose ». Et donc, des fois, on prenait de l'intérim. Et ça, c'est vraiment une plaie des fois parce que très honnêtement, dans les intérimaires, il y avait des fois des graves défauts de compétences. Les enfants étaient dans des situations gravissimes que j'ai fini par transférer, etc. J'ai laissé une fois un enfant prématuré dans le service de néonatologie et cet enfant faisait ce qu'on appelle des bradycardies, donc son cœur baissait d'un coup et puis il remontait. Et puis en fin d'après-midi, il en faisait un petit peu plus que d'habitude, donc je fais la relève du coup à mon collègue intérimaire. En lui disant qu'il faut jeter un coup d'œil à cet enfant d'un petit peu plus près, que peut-être qu'il prépare une infection. Et puis je pars et je suis vraiment pas sereine, donc j'appelle dans le service un petit peu plus tard pour prendre des nouvelles. Et là, l'infirmière était en panique et elle me dit que ça fait plusieurs fois qu'elle a appelé le médecin intérimaire, qu'il lui a fait des prescriptions par téléphone. Ce qui ne se fait absolument pas. Il faut avoir une trace des prescriptions, il faut qu'elles soient écrites, il faut qu'il y ait une vérification, etc., etc. En l'occurrence, c'était une prescription de caféine, je me souviens, ce qui ne correspond absolument pas au tableau que présentait l'enfant. Et je la sens en panique. Et du coup, je me rappelle que j'avais profité de cette soirée pour aller manger avec une amie. J'écourte le repas avec cette amie. Et je viens voir l'enfant. Et il était en train, en fait, de faire une entérocolite ulcéronécrosante, donc qui est une complication qui peut être très grave. Et du coup, voilà, je m'occupe de l'enfant. Je pense que je suis restée de 20h à 23h avec lui. Et puis le pire, c'est que j'ai appelé donc cette intérimaire pour lui signifier que j'étais là. Mais il a même pas daigné, si vous voulez, venir voir l'enfant et m'aider à le prendre en charge ou quoi que ce soit. Ce que je réalise, c'est que moi, je peux pas être là 24/24 non plus. Et là, je me dis, mais le jour où tu réponds pas au téléphone, qu'est-ce qui se passe, quoi ? Là, je me dis que de toute façon, je ne tiendrai pas. Donc moi, je vais voir ma directrice, clairement, et je lui dis que je ne peux pas tenir et qu'en avril, je partirai. Avril parce que, simplement, c'est la fin du semestre des internes, que je veux pas laisser les internes tout seuls en plein milieu d'un semestre, que je veux pas non plus laisser les patients en plein milieu de l'hiver, sachant que l'hiver est la période la plus compliquée en pédiatrie. Donc je tiendrai jusqu'en avril, mais qu'ensuite, il fallait qu'ils se débrouillent. Pendant qu'il se passait tout ça et que je voyais en fait le service se dégrader et ses prises de risques de plus en plus nombreuses, je me suis dit qu'il fallait que je fasse des choses. Donc j'ai multiplié les appels et les courriers au comité de président du comité de surveillance, ARS, ordre des médecins, etc., etc. Et j'ai fini par appeler le comité de défense de l'hôpital public de Montluçon. Et en fait, on a décidé d'en parler à la population. Et c'est que finalement, ce qui a fait bouger ces autorités-là, c'est pas la peur des prises de risque sur les enfants, c'est la peur que ça se sache, en fait. C'est à partir du moment où on a commencé à en parler autour de nous, que là, ils se sont dit « mince, il faut qu'on fasse quelque chose ». Et au final, il y a eu des réunions organisées entre le CHU, le groupement hospitalier territorial, l'agence régionale de santé. Et ce qui a été décidé, c'est de créer un roulement avec des pédiatres du CHU et des autres hôpitaux périphériques pour qu'il y ait au moins un pédiatre par jour qui allait gérer une activité restreinte pour les grosses urgences quand il y en avait. Du coup, il y a eu un système qui permettait aux gens d'avoir des consultations dans des délais acceptables. Donc il y a quand même des solutions qui ont été proposées. Mais le fait, si vous voulez, qu'on propose un pédiatre qui change toutes les 24 heures fait qu'il n'y a aucune continuité de service. Pour les familles, c'est compliqué quand vous avez un enfant hospitalisé, que vous avez chaque jour quelqu'un de différent qui vous dit A et l'autre qui vous dit B. C'est vrai que c'est compliqué. C'est une solution qui ne peut être pérenne, en fait. Donc arrive le mois de novembre, donc la décision de partir a été extrêmement difficile à prendre. Je me sentais clairement coupable de laisser toutes ces familles sans suivi. Donc elle a pris des mois et des mois à mûrir dans ma tête. Ça a été beaucoup de pleurs, beaucoup de tristesse. Franchement, ça a été très très dur. Donc je pars un peu plus tranquille en sachant que le service ne va pas complètement fermer. Et puis j'ai une certaine fierté. Parce que on a réussi à toucher la corde sensible et à montrer que le système a des failles qu'il va falloir sérieusement prendre en charge. Et ça, c'est quelque chose qui me permet de partir la tête un peu plus haute. Alors aujourd'hui, je suis toujours pédiatre. J'ai toujours la vocation. J'ai fait quelques remplacements par-ci, par-là. J'ai du mal encore à m'engager de façon longue avec l'hôpital public, même si j'y crois encore. Là, je sais que, par exemple, entre mes remplacements, on m'a beaucoup proposé d'aller dans l'hôpital privé parce que j'allais pas me casser la tête, que j'allais gagner beaucoup, etc., etc. Ça, c'est quelque chose que je me refuse de faire complètement. Tout le monde devrait pouvoir avoir accès aux mêmes soins, où qu'il soit. L'hôpital public, dans ses principes fondamentaux et dans sa théorie, c'est quelque chose qui est magnifique, en fait.
À descendre, je me sens mal dans ma tête. J'y arrive pas, faut que tu m'aides.
C'était Médecin démissionnaire, un reportage de Rémi Dibowski-Douat réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Iba, Taraf, à Elena Fournier. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy. Notre stagiaire, c'est Inès Bouffartigue-Sébastien.